les préservatifs de la pensée ou comment la philosophie nous préserve de nos préjugés. Une chronique philosophique présentée par Christophe Galli.
Bonjour à tous. Il y a parfois une forme de désespoir qui se forme en lisant le journal. Certes, le philosophe allemand Hegel, contemporain de Napoléon, écrivait « La lecture du journal, le matin au lever, est une sorte de prière du matin réaliste. » Mais lorsque ce que vous lisez semble être la répétition d'une farce tragique, vous ne pouvez pas vous empêcher de voir la colère monter dans votre gorge. En ce matin du 26 février 2026, je lis que, selon le patron de la première banque américaine, autant dire la première banque du monde, nous nous précipitons tout droit vers une nouvelle crise économique mondiale semblable à celle d'il y a 20 ans, connue sous le nom de crise subprime. En espérant que lorsque vous écouterez cette chronique, nous ne serons pas tous déjà noyés dedans. Explication. La crise de 2007 était due à une accumulation par des individuels de dettes pour achats immobiliers avec des taux d'intérêt démentiels, les fameux subprimes, qui permettaient aux investisseurs de gagner des sommes extraordinaires. Le système s'est écroulé le jour où tout le monde a admis qu'il était impossible de rembourser ses dettes. Aujourd'hui, même schéma, sauf que ce sont de grandes entreprises qui s'endettent pour investir, non dans l'immobilier, mais dans l'IA. Par exemple, l'entreprise propriétaire de Facebook, Meta, investit 100 milliards de dollars pour des processeurs graphiques, sans être sûr que ce soit amortissable. Et encore moins rentable. Premier risque, une bulle financière se crée et peut éclater. Deuxième risque, l'IA va remplacer un très grand nombre d'emplois qualifiés, donc il va y avoir des licenciements chez les cadres et des emplois intellectuels. Les gens ne pourront plus rembourser leurs dettes individuelles. Cumulées, elles représentent environ 1 800 milliards de dollars aux États-Unis. Et le marché de l'immobilier va à nouveau s'écrouler. Et je ne parle pas des risques liés aux interventions militaires des États-Unis depuis le mois de janvier. Ainsi va le système économique dans lequel nous évoluons. Il construit des richesses colossales et fonctionne en cycle croissance, crise. Sans parler des inégalités qu'il produit, nous pouvons nous demander pourquoi, malgré la connaissance assez fine que nous avons de ses défauts, il n'est pas abandonné au profit de solutions plus stables, voire plus justes.
Dans cette bataille qui s'engage, je vais vous dire qui est mon adversaire, mon véritable adversaire. Il n'a pas de nom, pas de visage, pas de parti. Il ne présentera jamais sa candidature. Il ne sera donc pas élu. Et pourtant, il gouverne. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Les stock-options, sauf pour les entreprises naissantes, seront supprimées et les bonus encadrés, avec ceux en Europe qui voudront la mettre en œuvre avec nous.
La réponse n'est peut-être pas dans l'économie, mais dans l'anthropologie. C'est-à-dire la réflexion sur la nature humaine elle-même. Et la philosophie peut nous aider en la matière, tout particulièrement grâce à un penseur qui a vécu au XVIIe siècle, dans un des pays qui a donné naissance au capitalisme, les Pays-Bas. Ce philosophe, Spinoza, développa deux grandes idées. Le désir est plus fort que tout, et tout individu fait ce qu'il peut pour persévérer dans son être. Je m'explique et je me justifie grâce à une notion fondamentale, le conatus, qui est la clé pour comprendre ce qui se passe. Ce mot est le substantif du verbe latin « conari » qui veut dire « faire un effort ». C'est une force en nous qui nous caractérise et qui nous pousse à être ce pour quoi nous sommes faits. Spinoza écrivait dans son traité politique « l'effort universel que font tous les hommes pour se conserver, qu'ils soient sages ou insensés ». Une des manières de se conserver est d'acquérir de la puissance. Et l'argent est une forme de puissance indéniable. D'où le désir tout à fait naturel qu'ont les hommes de gagner les sommes les plus importantes possibles, le plus facilement possible. Et la spéculation financière fait partie de ces moyens, même si elle possède des règles qui lui sont propres. Car il faut penser la réalité du capitalisme à deux niveaux. Le premier, au niveau des individus qui veulent s'enrichir, l'autre, au niveau d'un système financier qui possède sa logique, son propre effort à vouloir se conserver.
Il me semble qu'il y a comme une erreur.
Pardon ?
J'ai plus d'argent qu'avant.
Ah, ce sont les plus-values de vos placements.
De mes placements?
Oui.
Vous voulez dire qu'avec tout ce que j'ai claqué, j'ai quand même gagné 5%?
C'est-à-dire, on a été un petit peu prudent.
Donc, quand on est riche, ça ne s'arrête jamais.
Oui. Et rassurez-vous, c'est pareil quand on est pauvre. Pardon. Excuse-moi, c'est une mauvaise blague. Alors, quel est le motif de votre visite?
Je vous donne un exemple pour illustrer et expliquer. Au XVIIe siècle, les Pays-Bas, appelés alors Provinces Unies, étaient un pays en plein développement économique et démographique. Les plus riches avaient besoin de montrer leur puissance, et le hasard des progrès de l'horticulture fit que ce furent les espèces et couleurs de tulipes qui devinrent le signe extérieur de richesse plus couru. Acheter des tulipes aux couleurs rares, c'était montrer qu'on était puissant, donc apte au commerce, CQFD. Une autre innovation, parallèle, mais cette fois financière, celle des billets à effet, permit d'acheter et de revendre les bulbes de tulipes avant même que ces dernières fleurissent, juste en s'échangeant des billets. Et une spéculation basée sur la revente des billets fit qu'une bulbe valut jusqu'à l'équivalent de 2 maisons d'habitation au nom de la logis du fou. J'achète un bulbe, 10 000 florentins, c'est absurde. Mais je sais que quelqu'un de plus insensé que moi me l'achètera 11 000, donc pourquoi pas. Sauf qu'un jour de février 1637, la rumeur se répandit qu'il n'y avait plus d'acheteurs et le prix du bulbe s'écroula de 99% en quelques heures, devenant ainsi la première crise du capitalisme naissant. Mourut-il pour autant ? Non, car le système trouva une solution, notamment en régulant les conditions d'achat du marché. Et les provinces unies sortirent encore plus riches de cette situation. Certes, au détriment des petits porteurs qui achetèrent, juste avant la crise, au prix le plus fort.
Les actions se vendent sur le marché de gré à gré à 10 cents le titre. Et je vous le dis, John, notre analyste nous a indiqué que ça allait grimper très vite. Votre profit sur un investissement, disons, de 6 000 $ pourrait monter à plus de 60 000 $.
C'est le montant de mon crédit.
Exactement, vous pourriez rembourser votre crédit.
Je pourrais payer ma maison.
Ce que je peux vous promettre, c'est que même sur ce marché, je ne demande jamais à mes clients de me juger sur mes gains. Je leur demande de me juger sur mes pertes parce que j'en ai très peu. Et dans le cas d'Aerotyne, on se base sur des facteurs techniques à la pointe. Alors, on est gagnant à coup sûr.
D'accord, je marche. J'en prends pour 4000 $, je peux le faire.
4000, ça vous ferait 40 000 actions, John. Laissez-moi bloquer cette transaction tout de suite et ma secrétaire vous rappellera pour vous le confirmer. Ça vous va ?
Oui, très bien.
Super. Hé, John, merci de votre confiance. Et bienvenue au centre d'investissement.
Merci à vous et bonne journée.
Au revoir.
Est-ce que cet exemple est l'illustration que l'argent pourrit tout ? Corrompt tout le monde comme une forme de maladie dégénérative ? La réponse doit être non, sauf à ne pas tenir compte de ce qui fait la nature humaine. L'argent n'est qu'un outil pour permettre à l'homme de démultiplier sa puissance, que ce soit sous forme de volonté ou de désir. Mais avoir la volonté de tuer le désir au nom de la morale est une contradiction en soi, car les deux participent du même mouvement, celui qui pousse tout être humain à exister et à déployer les ailes de sa puissance. Ce qui est le cas pour tout ce qui existe d'ailleurs, humains, animaux ou plantes. Tout se ramène à une seule logique, le droit naturel. Pour bien comprendre cela, je reviens vers l'analyse que fait Spinoza dans son traité politique. Il expliqua pourquoi les individus, alors même qu'ils sont rationnels, font de mauvais choix et s'orientent vers des options absurdes. Il écrit « La raison enseigne à pratiquer la moralité, à vivre dans la tranquillité et la paix intérieure. Mais les hommes sont conduits plutôt par le désir aveugle que par la raison. Le philosophe est ainsi du désir le principal moteur des hommes. C'est le premier point, qui ne serait pas un problème si nos désirs étaient réellement les nôtres. Or, ce n'est pas le cas. Nous vivons souvent selon le désir d'un autre, dont on est dépendant et qui va susciter en nous, pour nous dominer, deux sentiments antagonistes, la peur et la joie. C'est là que se situe le problème. On ne désire pas ce qui est bon pour nous, mais ce qui nous maintient dans l'illusion que c'est dans notre intérêt. Spinoza précise que l'espoir et la crainte sont les moteurs principaux de décisions qui vont contre toute logique rationnelle. La colère, l'envie et la haine sont des attitudes très communes et pourtant contraires à toute existence sociale harmonieuse. Elles sont en réalité le fruit de manipulations de la part de certains dont les intérêts passent par vos sentiments de crainte et d'espoir. Ils ont leur propre logique, celle notamment de s'enrichir sur votre crédulité et votre dépendance financière. Et cette logique est en contradiction avec nos intérêts rationnels.
Tell you something.
Le problème réside donc dans l'interaction entre les hommes qui poursuivent des intérêts divergents. Mais ce n'est pas un problème insoluble, car il y a la puissance publique, autrement dit l'État, qui doit être là pour réguler les relations et les échanges humains. Et c'est ce que nous appelons la loi. Certes, il existe des lois iniques, car défendant l'intérêt de quelques-uns. Mais pour autant, Spinoza reste un philosophe libéral. La loi doit consister à ordonner les libertés de chacun, de manière à ne pas empiéter celles des autres, c'est-à-dire en permettant à chacun, selon son droit naturel, celui de suivre sa raison. Exemple concret, le délit d'initié permet à une personne qui détient des informations secrètes sur des investissements d'acheter des parts de marché ou de précipiter certains à investir ou à vendre à l'aveugle. Ils défendent ainsi leur intérêt. Mais c'est presque la mécanique de base de toutes les malversations dans le milieu financier, car il provoque de l'espoir ou de la crainte de manière irrationnelle chez les autres. D'où l'action de la loi pour réguler, mais sans interdire, ce qui permet aux hommes de s'enrichir dans leur intérêt.
Vous êtes certain de vos informations ?
Je les tiens de Sandrez lui-même. Vous voyez qu'on a bien fait de le placer au conseil.
Une vraie planche pourrie, ce Sandrez.
C'est bien pour ça qu'ils l'ont pris.
L'eau minérale devrait bondir de 25 à 30% dans la journée, ce qui devrait nous faire autour de 80 millions.
Excellent. Je vais dire à mon fils d'en acheter, ça l'aidera à payer son DIFOF.
Pardonnez-moi, mais il me semble qu'utiliser cette information relèverait du délit d'initié caractérisé. L'autorité des marchés ne manquerait pas de...
Excusez-le, il débute.
Mais, monsieur Despinas, nous risquons...
Alban.
Oui, monsieur.
Vous connaissez certainement l'étymologie du mot scrupule. Du latin scrupulus, un petit caillou.
Un petit caillou dans la sandale d'un légionnaire capable d'entraver la marche de toute une armée.
Un stupide petit caillou.
L'utopie n'est donc pas de vouloir détruire ce qui existe. Oh, certes, l'utopie permet de rêver, mais Spinoza nous apprend que cela ne sert à rien de poursuivre des chimères. Lorsque Hegel ouvrait son journal le matin, il le considérait comme un rituel qui lui offrait la réalité du monde. Et c'est de cette réalité, il faut que nous en fassions notre nid. Même si le soir venu, nous pouvons spéculer sur un monde meilleur. Ce dernier n'adviendra jamais si on ne comprend pas la nature humaine. Cette chronique philosophique a été rendue possible grâce à la politique d'antenne de Radio Pays des Roues, et donc indirectement des subventions que cette radio touche du ministère de la Culture dans le cadre du Fonds de soutien à l'expression radiophonique, la FSER. L'objectif d'une radio associative n'est pas de gagner de l'argent et d'accroître sa puissance, il est de permettre à la société civile et ses forces vives de s'exprimer. Il est du devoir de l'État d'assurer les moyens de cette expression. Si vous aimez l'émission produite par RPHU des Radio Pays des Roues, soyez attentifs aux choix budgétaires dramatiques pour toutes les radios associatives. Et avant de vous quitter, je voudrais vous donner un petit conseil. Spinoza fait partie des philosophes à la mode. Mais s'il vous intéresse, au lieu d'acheter des livres de commentateurs, lisez directement son traité politique. Écrit à la fin de sa courte vie, il est mort à 45 ans, ce livre est une synthèse très claire de toute sa philosophie. Vous aurez ainsi un accès direct à sa pensée. Mais en attendant, je remercie Solène pour la technique et le montage, et je laisse le dernier mot à Jacques Higelin.
Pars, surtout ne te